Le journal.
Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. La santé est considérée comme un thème pas assez abordé par les candidats à la présidentielle par 3 Français sur 4 sondés. C'est chose faite, désormais 5 prétendants à l'Élysée ont présenté leur programme aujourd'hui. Ils sont d'accord sur un point, faire davantage de prévention. La prévention, c'est aussi ce qu'a prôné le ministre de l'Agriculture en déplacement dans les Landes aujourd'hui. Prévenir les foyers de grippe aviaire particulièrement virulente en ce moment en abattant 360 000 canards. Reportage dans ce journal et nous en parlerons aussi avec notre invité Thierry Pinault de l'INRA. C'était un procès très attendu et qui divise Israël. Le soldat israélien accusé d'avoir tué un Palestinien d'une balle dans la tête à Hébron a été condamné à 18 mois de prison. Une peine légère, ont dénoncé les Palestiniens. À 60 jours de la course à l'Élysée, la campagne s'intensifie pour les candidats avec des programmes qui se dévoilent et s'affinent au fur et à mesure. La semaine dernière étaient évoquées les questions de sécurité. Cette fois, le thème, c'était la santé. Un thème très important, survolé pour le moment. Et bien donc, c'était l'occasion de rentrer dans les détails pour 5 candidats conviés à la mutualité française aujourd'hui. Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon. Avec un mot commun, Aurélie Kiefer, qui est revenu dans chaque bouche, la prévention.
C'est le tout premier thème développé par Emmanuel Macron. Une politique volontariste de prévention, explique le candidat d'En Marche, fera faire des économies.
On a un très bon système de santé. Notre système est parfait quand vous avez une pathologie lourde et coûteuse. Mais on n'arrive pas à faire que les gens, par des comportements au quotidien, par justement de la prévention à l'école, dans l'entreprise, évitent d'aller vers ces pathologies. C'est très important aussi de continuer à encadrer et bien rembourser, y compris les soins les plus petits qui paraissent les plus anecdotiques. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. Parce que si on les dérembourse, les gens vont beaucoup plus facilement vers des comportements à risque, les laissent dégénérer à cause du reste à charge qu'on leur laisse, et ça se dégrade.
Pas de déremboursement, promet Emmanuel Macron. Sur ce point, François Fillon a évolué. Il est désormais favorable au remboursement au plus proche des 100% pour les lunettes et les prothèses dentaires ou auditives. Et il est à ce point convaincu par la prévention qu'il veut rendre obligatoire une consultation tous les 2 ans pour les Français. Pour Benoît Hamon et Yannick Jadot, la prévention, c'est d'abord protéger notre environnement, lutter contre la pollution de l'air et les perturbateurs endocriniens. Pour cela, il faudra investir, préviennent l'écologiste et le socialiste. Investir, c'est aussi le credo d'Emmanuel Macron. Il faut selon lui 5 milliards d'euros pour les hôpitaux, quand le candidat Les Républicains annonce au contraire des économies drastiques. À l'issue des débats, Thierry Baudet, président de la Mutualité française, estime que les candidats doivent encore affiner leur programme.
Les dépenses de santé vont continuer d'augmenter. Et aujourd'hui, on a entendu des candidats qui nous ont dit qu'ils visaient des remboursements à 100%. Moi, j'aurais aimé aussi qu'ils nous disent, plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, non seulement qui va rembourser, à quel niveau, mais comment on va modérer la dépense. Comment vont-ils s'y prendre les uns et les autres pour que chaque euro dépensé dans le système soit un euro utilement dépensé. C'est à ces conditions-là qu'on pourra atteindre l'objectif, je crois qu'ils ont tous fixé, à savoir l'égal accès aux soins de l'ensemble de nos compatriotes.
Les grandes lignes des propositions des candidats, y compris celles des absents du jour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sont présentées sur le site placedelasante.fr.
Un reportage d'Aurélie Kiefer. 3 hommes ont été interpellés aujourd'hui à Clermont-Ferrand, Marseille et en région parisienne. Ils sont soupçonnés de vouloir partir en Syrie ou de commettre un attentat en France. Ils étaient surveillés depuis plusieurs mois par la DGSI. Ils pourraient avoir un lien avec le groupe de Montpellier, 2 hommes et une adolescente interpellés il y a 10 jours, soupçonnés de préparer un attentat imminent. Tous les canards des Landes ne seront finalement pas abattus. Pour enrayer l'épizootie de grippe aviaire, le ministre de l'Agriculture annonçait ce matin pourtant que les 600 000 palmipèdes que compte encore le département allaient être tués. Mais ce soir, Stéphane Le Foll a revu à la baisse ce nombre. Presque moitié moins seront abattus de manière préventive. Les zones touchées par le H5N8 vont connaître un vide sanitaire. Reportage de Benjamin Illy à Mont-de-Marsan où se tenait une réunion entre le ministre, les représentants des éleveurs et les syndicats.
Après 2 heures de réunion, Stéphane Le Foll a tranché. 360 000 canards seront abattus. Le ministre de l'Agriculture a précisé les secteurs concernés et le calendrier.
Nous allons donc nous engager sur un abattage avec une extension des abattages préventifs des palmipèdes dans les zones instables. C'est ouest des Landes, petite partie nord des Pyrénées-Atlantiques. Avec un objectif de dépeuplement de la zone la plus touchée de 15 jours.
Et finalement, pas d'abattage de tous les canards dans tout le département des Landes. La FDSEA a demandé un dépeuplement total. François Lespard, président de la FDSEA des Landes.
Et je pense que le ministre est comptable du résultat qui va se produire avec les demi-mesures qu'il a prises en matière de dépeuplement. Mais les conséquences, ça veut dire qu'il a choisi de ne pas prendre des mesures tout à fait radicales. Donc on est sous la menace de cas qui redémarrent par-ci, par-là, parce que on n'a pas pris des mesures à la hauteur de la situation. Sanitaire, c'est notre inquiétude. On va voir quelle efficacité ça a.
Avec un objectif pour Stéphane Le Foll, une reprise de l'activité dans les exploitations concernées par l'abattage des palmipèdes d'ici fin mai.
Alors cette épizootie est-elle particulière cette année? On pose la question à notre invité. Bonsoir Thierry Pinault.
Bonsoir.
Alors vous êtes chef du département santé animale à l'INRA. La barrière sanitaire mise en place il y a quelques mois n'a pas suffi. Il va falloir faire le vide sanitaire dans une zone qui touche 4 départements du Sud-Ouest. La grippe aviaire est-elle exceptionnelle?
Alors elle a un caractère exceptionnel dans la sévérité de l'infection chez les animaux, puisque le virus est quand même particulièrement actif et il produit des effets lourds et il y a une forte mortalité. Donc à ce titre-là, oui, il est particulier et différent de l'épisode que nous avions connu antérieurement.
Alors selon la Chambre d'agriculture des Landes, il y a une dizaine de nouveaux foyers chaque jour. Pourquoi le virus est plus sévère cette année ?
Alors, il y a deux questions dans cette question. Il est plus sévère parce qu'il ne s'agit pas du même virus que les années précédentes. Les virus de grippe ont une capacité à recombiner et à donc ajuster leur virulence. Donc, elle varie en fonction des espèces. Cette année, chez le canard, le virus qui est en circulation est particulièrement sévère et mortel. Et puis, il y a une deuxième question qui est celle de comment est-ce qu'il diffuse. Alors là, il y a des modalités d'organisation de cette filière économique et cette filière professionnelle qui font qu'il doit subsister très probablement des liens épidémiologiques entre les différentes exploitations et que certains mouvements de personnes, de matériel, de camions, des usages de cages... Il y a des liens qui subsistent et qui doivent permettre effectivement au virus de diffuser d'une exploitation à une autre. Sans compter effectivement aussi la capacité à des animaux de la faune sauvage, donc des oiseaux, de pouvoir également transporter le virus d'un lieu à un autre et éventuellement de contaminer des exploitations.
Mais il y a eu des règles sanitaires et de biosécurité qui ont été mises en place il y a quelques semaines. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas été respectées ?
Alors je pense que les règles qui ont été mises en place étaient vraiment extrêmement utiles et qu'elles ont vraiment certainement évité une catastrophe peut-être encore plus grave avec un virus de cette nature. Donc il fallait effectivement les mettre en place. Toute la filière, tous les exploitants ont vraiment joué le jeu d'intenses efforts pour mettre en place ces règles sanitaires, mais face à un tel virus, effectivement, on n'est peut-être pas allé au bout de la démarche, on n'a peut-être pas mis en place tout ce qui aurait été nécessaire pour éviter à un tel virus de diffuser. Mais en tout état de cause, ce qui a été mis en place, c'était déjà véritablement un énorme pas en avant en matière de prévention.
Et est-ce que le vide sanitaire est la seule solution? Par exemple, pour la Confédération paysanne, ce n'est pas la bonne solution. Elle prône une gestion au plus près des foyers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, en situation de crise sanitaire, je vais prendre une métaphore, une image. Quand vous avez comme ça un incendie, on est bien amené par moment, lorsqu'on a des incendies qui se propagent et qu'on n'arrive pas à mettre sous contrôle, à faire une tranchée coupe-feu. Il faut, via un vide sanitaire, avoir une zone dépeuplée qui va opposer finalement à la diffusion du virus, eh bien, toute une zone géographique où le virus ne va plus trouver d'hôte pour progresser. Et donc, c'est vraiment le principe de la tranchée par feu. Il faut interrompre la diffusion. Mais ça, c'est de la gestion sanitaire en situation de crise. On est donc dans l'urgence. Et les mesures dont vous me parliez sont des mesures qui sont beaucoup plus structurelles, intéressantes certainement, parce que les bonnes questions sont posées actuellement. N'y a-t-il pas, dans l'organisation même des filières, des fragilités inhérentes à son organisation qui permettent à un virus de diffuser? Et la question posée par ces organisations, elle est judicieuse. Mais si vous voulez, ça va donner des solutions de gestion, mais de gestion en temps de paix, alors que là, nous sommes véritablement en temps de guerre.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour empêcher que le virus ne revienne? Quelles mesures de prévention?
Alors, je n'ai pas de mesures toutes faites, mais il revient vraiment à l'ensemble des acteurs de la filière d'imaginer des ajustements, des changements plus ou moins importants, conséquents dans leur organisation pour éviter qu'il ne subsiste des liens épidémiologiques entre les différentes exploitations, entre les différents métiers également, et en particulier de bien penser les liens que constituent les distributions dans leur diversité, distribution d'animaux, livraison d'aliments, livraison en tout genre, avec finalement des matériels ou des personnels qui se déplacent donc d'exploitation en exploitation. Ça peut être quelque chose à...
Limiter les déplacements par exemple.
Alors, limiter les déplacements en période en situation de crise, vous savez que c'est bien le cas, hein, véritablement, c'est une mesure qui est adoptée. Mais ensuite, les rationaliser en situation donc de fonctionnement ordinaire, ça peut être un objectif. Les rationaliser pour qu'ils limitent, situation d'émergence, la diffusion d'un virus.
Merci Thierry Pinault d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes chef du département santé animale à l'INRA. Il avait été filmé alors qu'il tirait une balle dans la tête d'un Palestinien blessé à Hébron. C'était en mars l'année dernière. Aujourd'hui, ce soldat israélien, Elor Azaria, a été condamné à 18 mois de prison. La présidente du tribunal a reconnu qu'il avait des circonstances atténuantes, évoquant, je cite, « le territoire hostile sur lequel s'étaient produits les faits ». À ce moment-là, les violences étaient quasi quotidiennes dans les territoires palestiniens. Un verdict dénoncé par les Palestiniens qui parlent de peine légère. À Hébron, le reportage de Marine Vlaovic.
Les officiels palestiniens dénoncent même un feu vert donné à l'armée pour tuer des Palestiniens, ainsi qu'un procès-spectacle dont l'issue était connue d'avance. Car un an et demi de prison en lieu et place des 3 à 5 ans requis par le procureur, c'est une peine indulgente pour Elor Azaria. Le soldat franco-israélien aura sans doute bénéficié d'un contexte politique favorable à l'extrême droite, dénoncent les habitants d'Hébron. Ici, dans la plus grande ville de Cisjordanie, on attendait avec impatience la sentence et quand elle s'est fait connaître, eh bien on pouvait lire une grande déception sur les visages. La famille d'Abdel Fattah al-Sharif, le jeune abattu par le soldat israélien, s'est réunie avec ses soutiens en plein centre de la ville palestinienne cet après-midi et Youssir al-Sharif, le père, a laissé éclater sa colère.
Cette sentence est absurde. Si un Palestinien jetait des pierres à un soldat, il serait condamné à plus d'un an et demi de prison. Mais un soldat qui a tué intentionnellement un Palestinien est juste condamné à un an et demi de prison.
Il y avait pourtant une vidéo qui prouvait qu'il l'a achevé alors qu'il était à terre et que c'était intentionnel, a rajouté la mère du jeune homme, le visage fermé, l'air désespéré. Autour d'elle, d'autres familles d'assaillants présumés palestiniens abattus par des soldats dont les cas litigieux ont été classés. La famille Al-Sharif espère quant à elle présenter cette affaire devant la Cour pénale internationale, mais sans y placer beaucoup d'espoir.
Un reportage de Marine Vlaovic à Hébron pour France Culture. En Azerbaïdjan, le poste de vice-président n'est plus vacant. Le président Ilham Aliyev a nommé sa femme. Ce petit pays du Caucase, riche en pétrole, régulièrement épinglé pour dérive autoritaire, violation des droits de l'homme, l'est maintenant également pour népotisme. Les précisions de Valérie Krova.
En Azerbaïdjan, le pouvoir est une affaire de famille. Pour justifier sa décision de nommer sa femme au poste de vice-présidente, Ilham Aliyev a énuméré les points forts de son épouse, professionnelle, éduquée, expérimentée et magnanime. Autant de qualités relativement communes pour cette femme de 52 ans qui n'a reçu aucune formation politique puisqu'elle a fait des études d'ophtalmologue. Brune aux cheveux longs, Meriban Aliyeva est très active sur les réseaux sociaux et à la télévision où elle apparaît régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Héritière de l'une des plus grandes familles du pays, elle était jusqu'à présent députée du principal parti au pouvoir et surtout à la tête de la puissante fondation Haïdar Aliyev, du nom de l'ancien dirigeant de l'Azerbaïdjan qui fut aussi le chef du KGB local. Richement dotée, la fondation promeut les valeurs culturelles culturelle du pays à travers le monde. C'est Laïla, l'une des filles du couple présidentiel, qui la dirige avec sa mère. La nomination de Mereban Alieva ne devrait avoir aucun effet positif sur les droits de l'homme, régulièrement bafoués dans ce petit pays autoritaire. Les arrestations se sont multipliées l'an dernier, au fur et à mesure qu'approchait un référendum visant à renforcer les pouvoirs présidentiels.
Les précisions de Valérie Crova. Le temps pour demain, il sera nuageux avec des risques de pluie, surtout le nord du pays. Dans le sud, le soleil dominera. Les températures minimales seront de 3 à 9 degrés sur la moitié nord et de 12 à 18 degrés dans le sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Emmanuel Faucillon.